Dieu est adorable. Quand on pense à adorable, on peut penser à ce petit enfant, peut-être Kélia, quand elle dort tranquillement sur la poitrine de son père, et puis que Tiffany exclame qu'elle est adorable. Mais ce n'est pas ce type d'adorable qui est Dieu, ce n'est pas ce type-là. Quand on pense à adorable, on peut aussi penser à ce couple réel que je connais, engagé à distance. L'homme habite en Allemagne et puis la fille à Lausanne. Le jour de l'anniversaire de la fille, il prend un train après son travail juste pour lui faire une surprise, lui apporter un cadeau. Ils passent quelques heures ensemble. Ensuite, il reprend le train, le dernier disponible, peut-être à 23 heures pour pouvoir rentrer, être de retour dans sa ville et le lendemain reprendre le travail. Après son départ sur le quai, la fille doit se dire qu'il est adorable d'avoir fait ça. Là, ça se rapproche déjà un tout petit peu de l'attitude de Dieu qui fait le premier pas pour nous rencontrer. Mais c'est encore beaucoup plus que juste ça. C'est beaucoup plus. Dieu, il est adorable par sa puissance. C'est dans Jérémie 32. Et puis il dit comme ça. Seigneur, l'Éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Quel privilège de pouvoir habiter dans un endroit où on est proche de la nature, dans presque n'importe quelle direction où on va. L'Omnibus a interviewé pour l'édition du 5 juillet les passants à Orbe pour leur demander leur coin nature préféré pour se balader. Ils ont cité la forêt d'Agier, ils ont cité les vignes d'Arnay, mais plusieurs ont cité simplement le chemin des présidents, à deux pas d'ici. Si on marche dans n'importe lequel de ces endroits, il faudra le constater, Dieu est adorable. Et même pas besoin de sortir de la maison. Une petite plante d'appartement qui grandit, qui fleurit. On vient d'avoir 2 semaines en vacances et puis on a une mauvaise herbe qui grandit dans un de nos pots ou une araignée qui descend sur sa toile. Comment un insecte si petit peut produire autant de toiles? C'est vraiment incroyable. Ou les pigeons, on a des pigeons qui insistent à venir dans nos volets avec des brindilles pour faire leur nid. On doit toujours les expulser. Ou alors une petite blessure, quand nos enfants se font une petite blessure et puis ils voient que jour après jour, ça cicatrise et ça guérit jusqu'à ce que ça devienne complètement neuf, la peau. Dieu est adorable. Dieu est adorable. Tout ça nous pousse à l'adoration. On ne peut pas rester indifférent. C'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Dieu est aussi adorable par sa bonté. Le prochain verset dit, tu fais preuve de bonté jusqu'à la millième génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom l'Éternel, le maître de l'univers. Alors, dans une première lecture, ça peut ne sembler pas bonté, mais injuste, ça. Tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Pourquoi un enfant devrait payer pour les fautes de ses parents? Ce n'est pas le cas de punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ici, il parle des conséquences du péché qui restent dans les générations suivantes. Le péché est si mauvais que ça affecte tout le monde. Les conséquences de mon péché affectent mes enfants et pas seulement d'ailleurs. Ça affecte aussi ma femme, mon entourage, les personnes avec qui j'ai des relations proches. Et c'est ça ce que ce texte veut dire. La suite du verset va montrer que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'il veut montrer là, c'est le grand contraste. Oui, le péché est tellement grave que ça affecte les prochaines générations. Les conséquences du péché de quelqu'un d'autre seront là. Ça affecte notre vie. Mais la bonté de Dieu est disponible pour des milliers de générations. Même là où je souffre les conséquences d'un péché que je n'ai pas commis, la bonté de Dieu est disponible. Et c'est ça ce qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il est adorable. La bonté de Dieu surpasse à large échelle le mal dans ce monde. C'est comparer un seau d'eau à une usine hydroélectrique avec toutes les comportes ouvertes. ce torrent d'amour. Il est grand, il est puissant, il est le maître de l'univers. Dieu est aussi adorable par ses conseils. La suite du verset, du passage dit « Tu es un excellent conseiller ». Parfois, on peut se dire que plus on a de choix, plus on est heureux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Plus on a de choix, plus on peut se sentir perdu aussi. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de choix, peut-être qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, au niveau de choix professionnels, au niveau de quoi faire avec leur argent, au niveau de quoi faire avec leur temps, par exemple. Et ils ne sont pas nécessairement plus heureux, mais ils sont peut-être plus perdus. Et si tu as déjà recherché Dieu pour une décision et que tu as reçu des réponses claires, tu dois le constater, Dieu est adorable. Ou parfois on recherche la volonté de Dieu et on ne reçoit pas une réponse claire, mais on se sent guidé dans un parcours plus long que juste une réponse. Et dans ce parcours qu'on est guidé, on doit le constater encore une fois, Dieu est adorable. Dieu est adorable. Cette année, dans les cadeaux qu'on a choisis au nom du poste pour les jeunes du YEP, on a choisi un livre pour trois d'entre eux qui est « Laissez Dieu écrire votre histoire d'amour » et qui est sur les relations amoureuses, en effet. Mais au tout début du livre, les auteurs, c'est un couple, ils disent « Notre objectif, ce n'est pas de dire « Fais ceci ou fais pas cela ». Non, 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 non. Notre objectif, c'est que tu apprennes à rechercher la volonté de Dieu et que Jésus soit le centre de ton adoration, qu'il ait la première place. C'est ça le plus important, plus que juste ne pas commettre ses erreurs dans ce domaine de sa vie, sur le choix du partenaire, ou sur la sexualité, ou sur comment avoir une relation durable. Plus que de ne pas commettre des erreurs, c'est plus important de rechercher la volonté de Dieu, que Jésus soit au centre de cette relation, parce que des erreurs, on pense que vous allez le commettre de toute façon. Les auteurs le disent. Dieu est adorable aussi par sa générosité. C'est la suite du passage. Généreux dans ton activité. Si on revient à la nature qui est parlée le début de ce passage, quelle générosité dans les ressources, dans les plantes, les fruits, les légumes, les animaux qu'on peut manger, dans les ressources pour construire, pour produire de l'énergie, dans l'intelligence humaine pour découvrir toutes ces choses-là dans la nature, dans les plaisirs profonds que des bonnes relations peuvent apporter, dans notre palette d'émotions. Dieu est généreux avec l'être humain. Il a été toujours généreux. Et il est aussi généreux quand on lui demande quelque chose. Il veut répondre aux besoins et puis combler le besoin généreusement, pas nécessairement ce qu'on a envie ou ce qu'on demande, mais le besoin qui est derrière, oui, et il veut combler généreusement. Et maintenant vient le complément du verset qui, j'avais dit, pouvait sembler injuste si on lit juste à la première lecture, mais la suite dit « Toi qui examines toutes les voies humaines pour traiter chacun conformément à sa conduite en fonction de ses agissements. » Du coup, la phrase « faire payer aux enfants la faute des pères » voulait vraiment dire les conséquences qui restent pour nous, qui restent pour les enfants. Mais lui, il examine chacun pour traiter chacun selon sa conduite, en fonction de ses propres agissements. Du coup, Dieu est adorable par sa justice. Ses yeux sont partout. Il voit chacun individuellement. Il voit ce que la personne a dû souffrir, il voit ce qu'il a hérité, ce qu'elle a, les désirs qu'elle a qui n'ont pas été satisfaits. Elle voit les choix que la personne a pris avec tout ce bagage qu'elle a reçu. Et sa justice, donc, ce n'est pas de faire la même chose pour tout le monde. Non, sa justice, c'est de faire une chose différente pour chacun selon ce que la personne a vécu et choisi. Dieu est adorable par cette justice. Dieu est adorable dans le sens où il mérite notre adoration. C'est ça que ça veut dire, Dieu est adorable. C'est trop merveilleux pour juste l'ignorer. Et c'est pour ça que plus le connaître, plus cheminer avec lui, plus chercher à le découvrir, c'est ce qui change vraiment notre cœur. On peut faire des efforts et vraiment arrêter quelque chose de mauvais ou commencer une nouvelle habitude. J'ai des amis qui ne sont absolument pas dans la foi, qui ont réussi à arrêter la cigarette d'un jour au lendemain. C'est possible, ça. Mais ça ne peut pas changer le cœur. Rencontrer Dieu, c'est ce qui nous fait être émerveillés. Et plus on aura un cœur d'adorateur qui est émerveillé par Dieu, plus on changera. Parce que c'est trop beau pour juste continuer notre vie telle qu'elle est. Dieu est trop beau, il faut que je réponde. J'ai envie de répondre à ce Dieu merveilleux. J'ai envie de changer, j'ai envie que lui, il me change. Parce qu'il est trop merveilleux pour que je reste tel que je suis. Et si peut-être on a perdu l'émerveillement pour Dieu, il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. Peut-être c'est juste que j'ai arrêté de prendre le temps pour le rencontrer régulièrement dans ma journée ou dans ma semaine, un temps exclusif pour lui. Dans le couple, tout le monde le sait, si on ne prend pas le temps régulièrement pour faire quelque chose que les deux, l'amour se refroidit. C'est comme ça. C'est comme ça aussi pour Dieu. Mais peut-être c'est aussi le style de rencontre qui ne marche plus. Si je reprends l'exemple du couple, peut-être juste prendre le petit déjeuner ensemble avant que les enfants se réveillent peut ne plus être la rencontre idéale pour cultiver une relation profonde. Peut-être ça a marché un temps, c'était suffisant, juste prendre le petit déjeuner ensemble. Mais peut-être c'est devenu un peu banal et puis il faut ajouter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau pour réchauffer de nouveau la relation. Et dans notre relation avec Dieu, on peut varier les manières de le rencontrer. On peut ajouter des choses nouvelles. Tant que les piliers restent, les piliers dans la relation avec Dieu sont la prière, la Bible et rencontrer d'autres frères et sœurs. Le rencontrer d'autres frères et sœurs, c'est important pour pouvoir être vulnérable, pour partager des difficultés, des joies, pour apprendre, pour enseigner les autres. On se forme les uns les autres et pour servir ensemble. C'est aussi un pilier essentiel. Mais tant qu'il y a la prière, qu'il y a la Bible, qu'il y a rencontré d'autres frères et sœurs, le reste, on peut varier. On peut trouver de nouvelles façons de rencontrer Dieu. On peut varier le style, la manière de le faire, l'horaire. Par exemple, dans une période de ma vie, dans mes moments personnels avec Dieu en semaine, avant d'aller au travail, je prenais aussi le temps de jouer un morceau de louange, par exemple. Après, j'avais changé ça, j'ai arrêté ça, mais dans un autre moment de la vie, j'incluais un chant à écouter après la lecture, par exemple. En ce moment, ces deux pratiques ne font plus partie de mes rencontres avec lui. J'écoute la musique dans d'autres moments, en voiture ou en faisant le ménage. Mais varier la rencontre peut apporter de nouveau l'émerveillement. Je fais ça un temps, ça m'a aidé à me connecter avec Dieu. Après, je change, c'est une autre pratique spirituelle qui peut m'apporter avec Dieu. Et puis, je suis de nouveau émerveillé parce que c'est une autre manière de le faire et ça me rapproche de Dieu. Et quand on redécouvre dans notre vie que Dieu est adorable, alors on va vouloir se donner tout en entier. On va abandonner la relation de peur, du style « il faut que je » pour être OK avec Dieu. On va plutôt avoir une relation de « j'ai trop envie d'être avec lui, j'ai trop envie qu'il me sauve de moi-même, j'ai trop envie qu'il transforme ma vie, j'ai besoin de lui en fait, j'ai besoin de lui, je ne peux pas vivre sans lui ». Et dans le livre, il le dit aussi, on est tellement désespéré pour être aimé, tel qu'on est. Mais on est capable de s'éloigner de celui qui a le plus donné pour l'humanité depuis la création du monde. Lui qui, déjà depuis la création du monde, était super généreux et qui a continué à déverser sa bonté, sa générosité sur la vie des êtres humains. Et on peut être capable de s'éloigner de lui. Et pourtant, on a envie d'être aimé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. L'invitation, comme Georgie a dit, c'est qu'il soit ton Dieu, l'unique objet de ton adoration, pas quelqu'un ou quelque chose. Dans le livre, il dit que si on est émerveillé, on sera humble de moi et fier de lui. Humble de moi et fier de lui. J'ai des bonnes et des mauvaises facettes dans ma vie, mais lui, il est extraordinaire. Lui, il est inimaginable. Lui, il est adorable. Lui, oui. Et j'ai envie de lui donner toute mon adoration. Parce que c'est lui qui a premièrement déversé de l'amour et de l'amour et de l'amour sur ma vie et sur toutes les générations qui ont passé sur terre. Trouve dans notre cœur, Seigneur, ce cœur d'émerveillement, ce cœur plein d'adoration pour le Dieu que tu es, pour la générosité que tu déverses sur ce monde et sur les êtres humains. Seigneur, on veut te connaître plus, pour être passionné, émerveillé par toi, par le Dieu que tu es. Et cet émerveillement va nous pousser à vouloir t'adorer, à vouloir que tu changes notre vie, à vouloir que tu aies la première place dans notre cœur. Et c'est ce qu'on désire. Amen.